Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Lundi dernier, François Hollande a présenté ses vœux aux forces économiques et sociales du pays. Cela s'est fait non loin de la Tour Eiffel, de l'autre côté de la Seine, rive droite, au Palais d'Iéna, bâtiment des années 30 qui abrite le Conseil économique et social. Devant les représentants des entreprises et des syndicats, le président de la République a lancé un nouveau plan d'urgence pour tenter de résorber le chômage endémique qui affecte la France et ses salariés, et dont David, 26 ans, pourrait être l'emblématique représentant.
Les nouvelles mesures proposées par François Hollande d'accorder une prime aux entreprises qui embauchaient des CDI entre 1003 et 1800 euros par mois. En l'occurrence, qu'on a bac plus 5, c'est pas le type de salaire auquel on prétend. Et en fait, on a l'impression de devoir lutter à la fois contre ceux d'en haut et d'être trop qualifié pour aller chercher les postes en bas. C'est-à-dire qu'un diplôme n'est pas convertible, comme un peu une monnaie inconvertible.
C'est donc de ce fléau qu'est le chômage que nous parlerons dans cette émission, et à travers le chômage de l'économie française, de la croissance trop faible, des investissements qui ne sont pas trop là, mais aussi de ses forces, de ses atouts, de ses espoirs. La France, mutation ou déclin, voilà le titre de cette émission à laquelle je vous convie et dont je vous présente maintenant les trois invités. Bonjour Axel Lacan.
Bonjour à tous.
Axel Lacan, vous êtes économiste au sein de Coerexecode, un institut d'économique. Vous y êtes chargé du suivi de l'évolution économique de trois pays, si je ne me trompe, la France, la Belgique et la Grande-Bretagne.
C'est bien cela.
Pour reprendre le titre de cette émission, vous seriez concernant la France plutôt mutation ou plutôt déclin ?
Ah, plutôt déclin au vu des dernières mesures qui ont été annoncées. Maintenant, n'oublions pas que la France a beaucoup de qualités. Il faut mettre en place des mesures structurelles, de vraies mesures structurelles pour relancer l'économie française et lui permettre de rehausser son potentiel de croissance.
Avec nous également Benjamin Coria, bonjour.
Bonjour.
Benjamin Coria, vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris 13, vous êtes membre du collectif des économistes atterrés. 2016, c'est l'année du retournement de la courbe de l'emploi en France ?
Non, je ne crois pas. Il y aura probablement quelques petits changements dans l'indice.
Un peu moins de chômeurs.
Voilà, parce que toute la politique est centrée autour de l'indice. Il est question de faire passer 500 000 chômeurs de catégorie A en catégorie D, mais dans la catégorie D, c'est les gens en formation. Donc la catégorie D, on la compte pas comme chômeur, donc on n'arrivera pas pour les 500 000, mais on arrivera pour une partie d'entre eux. Bon, il y aura quelques petits effets d'aubaine qui vont être utilisés avec les primes à l'embauche, etc. Donc il y aura des changements dans l'indice, probablement, mais pas dans le véritable chômage.
Je termine ce premier tour de table par vous, Xavier Timbaud, bonjour.
Bonjour.
Xavier Timbaud, vous êtes économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. On vous entend régulièrement sur les antennes de RFI. Alors l'OFCE, c'est un organisme indépendant, et dans un numéro récent de sa revue, le numéro 142, si ma mémoire est bonne, l'OFCE fait un constat: l'austérité budgétaire imposée par le gouvernement a provoqué une chute de 4% de l'emploi en France. Pourquoi est-ce que l'austérité budgétaire implique une réduction de l'emploi ?
Alors, c'est effectivement, je pense qu'il faut revenir un petit peu sur ce qui s'est passé, c'est-à-dire ne pas oublier qu'on est dans un contexte très particulier, qui est celui de la crise de 2008, qui a été suivi en Europe par la crise des dettes souveraines, dans lequel un mouvement d'austérité sans précédent a été conduit en Europe, et que le chômage qu'on a aujourd'hui n'est pas une espèce de mal français ou de fatalité ou de preuve que notre marché du travail est définitivement inadapté aux réalités de la globalisation, mais est le fruit d'un ensemble de crises, de politiques, de réponses à ces crises, et qu'on en est là.
Alors on va revenir sur tout ça dans cette émission, dans laquelle nous entendrons également un résumé sonore de l'intervention de François Hollande lundi dernier. Nous entendrons les dirigeants politiques qui ont multiplié les déclarations depuis plusieurs décennies, la voix de Pierre Gattaz, le président du MEDEF, le patronat français, et celle d'un jeune chef d'entreprise de la Net Economy, Romain David.
Entre mai 81 et la fin 83, nous sommes restés sur la crête des 2 millions de chômeurs. Je me souviens qu'en septembre 81, j'avais dit on se battra sur cette crête des 2 millions de chômeurs. Il y avait beaucoup de scepticisme. eh bien, on est resté avec les 2 millions de chômeurs.
Je demande aux entreprises de considérer comme un devoir national d'offrir, dès le mois de juin, une chance d'insertion à des centaines de milliers de Français, en concentrant l'effort sur ceux qui en ont le plus besoin, ceux qui risquent de s'installer dans le chômage de longue durée, qui est la porte qui mène à l'exclusion. À partir d'une formule simple et forte, le contrat initiative emploi, c'est-à-dire un contrat qui prévoit une exonération totale des charges sociales et une prime mensuelle de 2000 francs pendant 2 ans. Ce contrat donnera aux chefs d'entreprise, mais aussi aux initiatives locales, la possibilité de créer de nouveaux métiers, de nouveaux services, mais de vrais emplois.
Les salariés existent. Il y a des syndicats. Il y a une mobilisation qui peut se mener. Donc, je crois qu'il ne faut pas attendre tout de l'État ou du gouvernement, il faut aussi que se mobilisent à la fois l'opinion et les salariés de l'entreprise.
Je veux être jugé sur des résultats. Je m'engage, si je suis élu président de la République, à la fin de mon quinquennat, sur 5% de chômage et 5 mois de durée moyenne du chômage. Et ce sont des résultats qui m'obligent. Il faut cesser l'incantation et les discours.
S'il y a un état d'urgence sécuritaire, il y a aussi un état d'urgence économique et sociale. La lutte contre le chômage reste ma première priorité. Ce sera l'objet des textes préparés par le gouvernement pour simplifier le code du travail, instaurer une nouvelle sécurité sociale professionnelle et saisir les opportunités économiques offertes par la révolution numérique.
Ces voix, c'était celle du Premier ministre socialiste Pierre Mauroy en 1984, de Jacques Chirac lors de la campagne présidentielle de 1995, de Lionel Jospin en 1999, de Nicolas Sarkozy pendant sa campagne présidentielle de 2007 et enfin de François Hollande lors de ses vœux aux Français le 31 décembre dernier. 30 années de déclaration, nous aurions pu en ajouter bien d'autres de ces extraits sonores, à commencer par celui de François Mitterrand, estimant que contre le chômage on avait tout essayé, mais l'émission tout entière n'aurait pas suffi à écluser toutes ces déclarations. Qu'est-ce qu'ils nous disent de l'économie française, ces extraits sonores, pendant lesquels je vous ai vu prendre des notes, Benjamin Coria?
Oui, parce que cette répétition, j'ai presque envie de dire ces incantations, ouais, elles traitent pratiquement toutes de la même chose. Et justement, je pensais à ça. Je pensais à « on a tout essayé ». Et je pensais, oui, on a tout essayé sur le marché du travail, c'est-à-dire là où les choses ne se passent pas. Parce que quelle est l'idée? L'idée, c'est si on n'arrive pas à recréer de l'emploi, c'est parce que le marché du travail est trop rigide, les salaires sont trop élevés, etc. Et donc, on s'acharne sur ce malheureux marché du travail. De nouveau, on met le code du travail sur la sellette, etc. Alors que de toute évidence, ça se passe pas sur le marché du travail. Ça se passe sur le marché des produits. Ça se passe sur le marché de la demande. Ça se passe sur l'absence de croissance. Vous pouvez faire les salaires les plus bas que vous voulez. S'il y a personne pour acheter vos produits, vous n'allez pas les recruter. Ça, c'est vraiment la leçon fondamentale de ces 50 dernières années. C'est que le marché du travail, c'est le lieu dans lequel s'ajuste ce qui se décide ailleurs. C'est-à-dire que le niveau d'emploi ne se fixe pas sur le niveau du marché du travail. Le marché du travail enregistre le niveau de la demande globale. Donc, si on ne se donne pas les moyens de ça, bon, on peut s'acharner sur ce malheureux marché du travail, notamment sur ces malheureux salariés, il se passera rien. Voilà. Donc, on n'a pas tout essayé. On a tout essayé là où il faut pas.
Axel Lacan, vous êtes d'accord? On n'a pas tout essayé. Le marché du travail, c'est un thermomètre.
Oui, alors je partage cet avis. Ce que je trouve très intéressant en écoutant les différents extraits, c'est que ça montre bien à quel point le chômage est une problématique structurelle en France et à quel point les mesures d'ordre conjoncturel, il ne faut pas en espérer en effet trop d'effets. Je partage l'avis de Monsieur Coria. En effet, il faut revenir à la croissance, soutenir la croissance, inciter les chefs d'entreprise à prendre des risques, à effectuer des dépenses d'investissement. Et là, on verra l'effet sur le marché du travail. Mais attaquer par des mesures conjoncturelles le chômage a déjà montré que ça n'avait pas d'effet. Et je pense que dans quelques temps, on pourra écouter d'autres extraits sur cette problématique.
Avec toujours plus de chômeurs, Xavier Timbaud, si ça continue dans la même logique qui est dénoncée par les deux précédents intervenants, qu'est-ce que vous pensez de ce marché du travail? Est-ce qu'il est simplement un symptôme des dysfonctionnements de l'économie française, comme semble le dire Benjamin Coria?
Alors oui, il est un symptôme des dysfonctionnements, c'est incontestable, et il est la résultante du coup de beaucoup de choses. Il y a des éléments qui se passent sur le marché du travail. On peut parler de coût du travail, on peut parler de la flexibilité du marché du travail, etc. Mais effectivement, quand on dit on a tout essayé, c'est en fait on a tout essayé en matière de coût du travail, de flexibilité, ou même de réduction du temps de travail, parce que c'est presque une logique jointe à cette idée que il faut segmenter les problèmes. Et effectivement, toute la difficulté du chômage, c'est que c'est une question globale. Et ce que montre aussi de façon assez éclatante toutes ces déclarations, c'est que c'est une question importante sur le plan politique. C'est-à-dire que c'est aussi l'indicateur par lequel les politiques sont jugées, d'où ces discours parfois extrêmement volontaristes sur « je déclare l'état d'urgence, aujourd'hui c'est un devoir national de faire ceci, je m'engage personnellement à ce que le chômage soit à 5%. »
J'annonce une prime de 2000 francs, comme le disait Jacques Chirac, qui me fait penser à celle de 2000 euros qu'annonce François Hollande.
Donc il y a une forme de répétition, mais de répétition, et il faut bien comprendre, parce que cet indicateur par ailleurs est extrêmement important, ou en tout cas est perçu comme extrêmement important par les politiques, et ils en font le point focal de la politique. Après, je voudrais quand même, parce que c'est extrêmement important de passer ce message à vos auditeurs, bien dire une chose. En 2007, avant le début de la crise de 2008, le taux de chômage en France était de 7%. Il avait baissé de 3 points après le point haut qui avait été atteint à la fin des années 90. Il avait baissé de 3 points à ce moment-là. Il est aujourd'hui à 10,5. Donc il a réaugmenté de 3,5 points. Mais il serait tout à fait erroné de se mettre dans la tête qu'en France, on connaît une période de chômage élevé depuis 30 ans ou 40 ans, qu'on sacrifie la jeunesse, que c'est un problème pour tout le monde, et que les politiques, en quelque sorte, sont là à beaucoup en parler, mais à ne rien faire. C'est pas vrai. Il y a eu des phases de réduction du chômage, tout à fait notable. On s'est approché du plein emploi.
Les mais 5%, quand est-ce qu'on s'est approché?
À la fin de l'année 2007, la déclaration de Nicolas Sarkozy, qui paraît aujourd'hui presque surréaliste, sur « je vais amener le chômage à 5% », correspond à un moment où le chômage était à 7%, et où il avait baissé de 3 points en l'espace de 3 années, 1 point par an. Et donc pour Nicolas Sarkozy, arriver à 5% n'était pas quelque chose d'invraisemblable. Voilà pourquoi il s'engageait. Alors, Nicolas Sarkozy n'avait pas anticipé la crise de 2008, et évidemment qui a produit un résultat contraire, mais vous voyez bien, c'est pas sur le marché du travail que ça se joue, ça s'est joué dans cette crise globale, dans la façon dont on a répondu à cette crise, sur l'ensemble des politiques monétaires, budgétaires, comment on régule la finance, comment on stabilise le monde. C'est là que ça se joue, le chômage.
Mais si on prend les 30 dernières années qui calent ces déclarations qu'on vient d'entendre entre Pierre Mauroy en 84 et François Hollande aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des phases de montée brutale du chômage, puis de baisse? Ou est-ce que ça a été une montée régulière avec des à-coups à la baisse?
Non, ça a été une montée tout à fait irrégulière, avec des phases de crise aiguë et de montée assez brutale, des phases de baisse, tout ça dans un mouvement général de hausse. En France, on vit dans ce mythe ancien des 30 glorieuses, qui était un monde très particulier, dans lequel on avait beaucoup de croissance, on reconstruisait, on transférait une partie de la population du secteur agricole vers le secteur, vers le salariat, et dans lequel le taux de chômage était bas, et il était bas pour tout un tas de raisons, et en particulier parce que quand vous rentriez dans une entreprise, le jour où vous en sortiez, c'est parce que vous étiez à la retraite. Et donc, il n'y avait pas de mouvement sur le marché du travail. On est dans un univers plus flexible, dans lequel les choses se passent pas comme pendant les 30 glorieuses, les entreprises naissent, disparaissent. On a éduqué aussi beaucoup de jeunes, donc il y a une entrée sur le marché du travail qui est beaucoup plus massive. 90% des actifs en France sont des salariés, donc ils sont aussi confrontés à cette possibilité du chômage. On ne parlait pas du chômage dans les campagnes, parce que quand vous êtes au chômage dans les campagnes, vous êtes oisif, mais vous n'êtes pas au chômage. Donc le monde a changé, ce qui fait que la réalité du chômage n'est plus la même. Mais par contre, il y a bien des phases d'augmentation brutale du chômage, des baisses, et des baisses qui peuvent parfois être très importantes. Encore une fois, l'épisode de 2004 à 2007 est un épisode de baisse assez rapide du chômage.
Axel Lacan, des épisodes de baisse très rapide du chômage, on va en connaître, vous croyez?
Ce qui me semble vraiment important de souligner, c'est que compte tenu de la durée et de l'ampleur de la crise qu'on vient de traverser, elle va laisser des séquelles durables sur le marché du travail. On aura une hausse du chômage structurel qu'on peut voir d'ailleurs en regardant deux indicateurs que moi je trouve très intéressants. C'est notamment la durée moyenne d'inscription sur les listes des demandeurs d'emploi qui a fortement augmenté. On est à plus de 550 jours dans les dernières statistiques. Et puis la part des demandeurs d'emploi de longue, voire de très longue durée, c'est-à-dire supérieure à 2 ans, qui a fortement augmenté. Les personnes concernées voient leur employabilité diminuer et ont du mal à retourner sur le marché du travail. Donc, on est dans une situation où le taux de chômage est élevé et où il va probablement rester élevé, d'autant que les perspectives de croissance sont également modestes. On n'est plus du tout sur le même rythme de croissance qu'avant crise. Et donc, voilà, le taux de chômage est élevé et devrait le rester.
Cette économie française, Benjamin Coria, on dirait un ogre qui dévore ses enfants.
Oui, parce que, laissons de côté l'image de l'ogre, mais en tout cas, c'est une équipe qui n'a plus les moyens de son management interne. Hein, parce que c'est un peu ça, la difficulté qu'on a rencontrée. Qu'est-ce qui a fait suite à l'époque des 30 Glorieuses?
Ce qui a fait suite, les 30 Glorieuses,
c'est la grande période de croissance, 45-75.
Voilà. Hein, qui s'est terminée avec le choc pétrolier.
Qui s'est terminée, oui, avec le choc pétrolier, on va dire ça. Mais en fait, ce qui a succédé aux 30 Glorieuses, c'est deux phénomènes absolument majeurs. C'est le phénomène de la globalisation, avec l'ouverture internationale à peu près complète des marchés, et c'est la financiarisation. Parce que la forme extrême de cette globalisation, la forme la plus avancée, c'est la financiarisation. Et comme en plus en Europe, avec le traité de Maastricht, et encore plus en 2012, avec le traité de stabilité budgétaire, on a mis fin à la possibilité des politiques budgétaires nationales, on n'a plus d'instruments, c'est-à-dire que on a des entreprises qui peuvent regarder un marché mondial pour localiser là où ça leur paraît le moins cher. Et évidemment, la France n'est pas le moins cher, hein, d'où la grande difficulté qu'on a, d'un côté. Et de l'autre côté, une exigence des actionnaires pour des taux de rentabilité qui sont devenus absolument anormaux, hein, je veux dire, c'est des taux de rentabilité de 10 à 15% pour les actions placées, pour l'argent placé, est devenu une véritable norme. Donc dans ces conditions, je reviens à votre image d'ogre, ogre ou pas ogre, les équipes sont dépourvues de moyens. Donc si on ne restitue pas de la possibilité de politique budgétaire, soit au niveau national, soit en repensant les règles de déficit, hein, soit au niveau européen, hein, c'est-à-dire que on est dans une situation folle. L'Union européenne a un excédent de commerce extérieur de plus de 3%. Ça veut dire que on envoie de l'épargne partout dans le monde pour créer des emplois, pendant que nous, on crève sous le chômage et la précarité. Donc, il y a des marges de relance en Europe qui sont extrêmement importantes. Je voudrais juste rappeler quand même ça, hein. L'Allemagne est à 8,3% d'excédent de commerce extérieur. C'est 2,3 de plus que ce qui est autorisé par les traités. Monsieur Schäuble, hein, le grand défenseur des règles, au nom de quoi il a assassiné la Grèce, devrait sauter sur son siège et dire « Nous sommes en train d'enfreindre les règles, donc nous ne pouvons pas les imposer aux autres et nous devons absolument faire de la relance. » Ben, M. Schäuble se tait. Et donc, tant qu'on sera dans cette situation-là, eh bien, les équipes françaises n'auront pas de quoi relancer l'emploi à l'intérieur.
Axel Lacan, Benjamin Coria mettent en cause les autorités politiques, les pouvoirs publics. Est-ce que le monde de l'entreprise n'a pas, malgré tout, une part de responsabilité dans cette situation de l'emploi?
J'ai un peu mis en cause l'entreprise à travers la recherche de rentabilité. Ben, folle,
Axel Lacan.
En fait, quand on regarde l'évolution des profits des entreprises et l'évolution des dépenses d'investissement, c'est vrai qu'on a eu une forte augmentation des profits des sociétés non financières et une augmentation qui ne sera pas de la même ampleur, qui n'est pas de la même ampleur des dépenses d'investissement. En fait, si vous comparez rapidement, pour donner quelques chiffres, 2013 et 2015, les profits après impôts et avant dividendes, on a eu une augmentation de 37 milliards d'euros des profits. Alors on peut se dire, pourquoi les entreprises n'ont-elles pas augmenté leurs dépenses d'investissement? Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur ces 37 milliards d'augmentation des profits entre 2013 et 2015, on en a quand même une grande partie qui est liée à la baisse du prix du pétrole et une grande partie également liée à la baisse des taux d'intérêt. On a également l'effet des mesures de politique économique type CICE. Mais vous comprenez bien
c'est la relance voilà. De l'offre.
Voilà, mais vous comprenez bien que on est face à une augmentation circonstancielle des profits qui n'est pas durable. Finalement, ça n'incite pas à la prise de risque les chefs d'entreprise français.
Donc à créer de l'emploi.
Exactement, que ce soit en termes de dépenses d'investissement ou d'emploi, quand on est face à une augmentation qui peut paraître non pérenne de ses profits, ça n'incite pas à la prise de risque.
Nous reviendrons sur ce sujet dans la deuxième partie de l'émission parce que pour l'instant, nous avons rendez-vous avec l'actualité. Je vous retrouve dans 3 minutes.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI. Écho d'ici, écho d'ailleurs, Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la deuxième partie de cet écho d'ici, écho d'ailleurs, consacré à l'économie française et au phénomène qui marque cette économie au fer rouge depuis près de 40 ans, la hausse du chômage. Avec une question, est-ce le signe d'un déclin ou celui d'une mutation profonde? Trois invités autour de ce micro pour en parler. Xavier Timbaud, économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques. Benjamin Coriat, membre du collectif des économistes atterrés. Et Axel Lacan, économiste à l'Institut Coerexecode. Au cours de la première partie de cette émission, nous avons vu que le chômage était un fléau qui datait, qui remontait à il y a plusieurs décennies. Nous avons également vu que cette progression n'avait pas été continue, qu'il y avait eu des reflux, des moments où l'économie française créait plus d'emplois qu'elle n'en détruisait. C'est pour retrouver cette dynamique positive que François Hollande a pris la parole lundi 18 janvier devant le Conseil économique et social. On écoute un résumé sonore, un condensé de son intervention.
Mais je considère que face au désordre du monde, face à une conjoncture économique incertaine et à un chômage persistant, il y a aussi un état d'urgence économique et sociale à proclamer. Cet état d'urgence implique des choix. Il concerne d'abord le gouvernement, mais aussi les responsables politiques et les partenaires sociaux. Je suis lucide. La croissance est encore trop faible pour faire diminuer le chômage durablement. La reprise de l'investissement demeure fragile. Le bâtiment repart, mais les travaux publics stagnent. Enfin, le pouvoir d'achat progresse, mais la consommation n'est pas encore assez vigoureuse. Alors, tirons-en les conclusions. Il s'agit de redéfinir notre modèle économique et social. Entre le libéralisme sans conscience et l'immobilisme sans avenir, il y a une voie. Elle s'appelle la société du travail. L'objectif, c'est plus de liberté pour l'entreprise pour investir, pour innover, pour créer des emplois, mais aussi plus de liberté pour le salarié, pour choisir son métier, sa formation, la conduite de sa vie professionnelle. L'objectif, c'est aussi plus de sécurité pour l'entreprise, pour embaucher, pour adapter son effectif lorsque les circonstances économiques le demandent, mais aussi plus de sécurité pour le salarié face aux mutations et à la mobilité. Voilà, mesdames et messieurs, le modèle que nous avons à bâtir. La liberté et la sécurité pour tous, employeurs comme salariés.
Au cours de son intervention, le président de la République a annoncé aussi des primes, un plan de relance pour l'apprentissage, mais le MEDEF, le patronat, en veut encore plus. Écoutez Pierre Gattaz, le président de l'Organisation patronale française, au micro d'Altine Lazage.
Ce qui manque aussi, c'est tout ce qui est la modification du contrat du travail français. Vous savez que les Espagnols ont inventé une cause réelle et sérieuse qui est 9 mois de baisse de chiffre d'affaires, qui serait une cause réelle et sérieuse pour s'adapter. Les Italiens ont imaginé un CDI avec 3 ans de période d'essai. Là, rien sur le contrat de travail. Et je pense que nous avions tout simplement demandé à ce que la loi intègre quelques motifs de séparation pour qu'elle soit des causes réelles et sérieuses, non retoquées par le juge. Eh bien, je crois que dans ce domaine-là, malheureusement, rien n'est fait. Donc, ce besoin d'agilité et de souplesse que nous avons demandé pour nos entreprises françaises, qui sont soumises à la révolution numérique, à la mondialisation, à une compétition acharnée, il n'y a rien. Donc là, nous le regrettons vivement. Après, nous regrettons aussi qu'il y ait un allègement de charges, mais qui est fait sous forme de primes. Vous savez, nous ne sommes pas des chasseurs de primes. Nous cherchons en fait des mesures structurelles pérennes. Donc, le SMIC est élevé, puisque nous sommes à 1450 euros bruts. C'est l'un des SMIC les plus élevés d'Europe. Donc, nous pensons qu'en effet, l'annonce d'une prime de 2000 euros va dans le bon sens. Mais il faut impérativement la transformer en allègement de charges.
Alors, on va revenir dans un instant sur les propos de François Hollande. Mais Benjamin Coriat, je voulais vous faire la remarque suivante. Avoir le nombre de personnes sans emploi et dont beaucoup ont été licenciés en France, on a peine à croire que le licenciement soit quelque chose de difficile dans ce pays.
Ben oui, bien sûr. C'est une plaisanterie, cette histoire. Quand on dit le droit français, en particulier le droit du travail, bien sûr, manque de flexibilité, c'est pour ça que les employeurs n'emploient pas. Savez-vous, monsieur Jean-Pierre Boris, combien de contrats d'un mois ou de moins d'un mois ont été signés en 2014 en France? 20 millions. 20 millions. Après, il y a tous les autres, de quelques jours, de quelques mois, etc. Donc, je veux dire, c'est une pure fiction. On est revenu à la situation que je décrivais tout à l'heure. Vous pouvez flexibiliser autant que vous voulez. D'ailleurs, comment dire, Gattaz fils fait comme Gattaz père. Gattaz père nous avait dit.
Il faut rappeler que Gattaz père
a déjà été président du CNPF. Voilà. Il y a comme une chose patrimoniale. Gattaz père nous avait dit « Supprimez-moi l'autorisation administrative de licencier, je vous crée 500 000 emplois ». Et c'était engagé. Hein. Alors, on a supprimé l'autorisation administrative de licencier. C'était, en l'occurrence, sous Monsieur Seguin. Et qu'est-ce qui s'est passé ?
Donc, c'était dans les années 80.
Dans les années 80, 86. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelques années plus tard, le chômage avait augmenté de 200 000 personnes. Et Gattaz a dit « Ah ben oui, mais parce qu'il n'y avait pas la demande ». Donc là, on nous refait le même coup. On nous dit, donnez-nous des flexibilités, vous allez voir ce que vous allez voir. Et quand le chômage va augmenter, on va nous dire, ah ben, il n'y avait pas la demande. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a un petit côté tel père, tel fils. Mais en tout cas, la vraie question, c'est que il y a toute la flexibilité qu'on veut dans le contrat de travail en France.
Xavier Timbaud.
Bon, alors, deux choses. Enfin, je trouve que ce que dit Benjamin Coria est très juste. Ça me fait penser à Naomi Klein et la stratégie du choc. Quand on est dans des situations comme
Naomi
ça...
Naomi Klein, il faut rappeler qui c'est.
Naomi Klein, une journaliste canadienne. Qui a écrit des livres qui ont beaucoup marqué, en particulier tous les mouvements...
Nos logos, et
la stratégie du choc, donc auquel je fais référence. Quand on est dans des situations complexes comme ça, dans lequel parce que le chômage a un impact sur la vie des gens qui est très fort, c'est toujours difficile de dire voilà les solutions, voilà ce qu'il faut faire. Et donc à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui arrivent avec des agendas qui sont pas forcément en ligne avec la solution. C'est-à-dire ce qui les intéresse, c'est pas forcément de trouver un problème à la solution, mais c'est d'essayer de faire avancer leur agenda parce que ça va leur apporter un certain nombre d'avantages. On voit bien les avantages que peut avoir une entreprise dans la flexibilisation à l'extrême du marché du travail, c'est la possibilité en fait de payer ses salariés moins et d'augmenter ses profits. Que l'économie aille bien ou pas, parce que finalement la question de savoir si on crée des emplois est une question qui fait partie du marketing, mais qui n'est pas dans le cœur du produit en l'occurrence.
Ouais, c'est pas d'engagement.
Après, je dois dire que je trouve que le discours, les mots qu'on a entendus de François Hollande sont extrêmement bien écrits, c'est-à-dire qu'ils sont assez justes. Je suis pas sûr que François Hollande ait les bons conseillers pour lui souffler les politiques économiques à faire, mais en matière de discours, il y a quelque chose de très fort dedans. Et je pense qu'il dit une chose, Keynes le disait dans les années 30, qui est très importante à comprendre. Dans une économie libérale, donc dans lequel la liberté est la liberté d'entreprendre, la liberté d'être salarié dans une entreprise, la réalité de la liberté va être assurée par le plein emploi. Et dans une économie où il n'y a pas le plein emploi, eh ben, il n'y aura pas de liberté. Et c'est pour ça que le plein emploi est aussi important dans nos sociétés libérales. Parce que il n'y a pas d'alternative, en fait. Et si ce plein emploi n'est pas réalisé, la liberté tourne au cauchemar, à une situation totalement injuste, où les plus défavorisés, les moins qualifiés, les femmes, les handicapés, les jeunes, les vieux, vont subir toutes les misères que l'économie capitaliste peut leur imposer. Et c'est pour ça que le plein emploi est aussi important, et c'est pour ça qu'il est une impérieuse nécessité, et c'est pour ça qu'on ne peut pas se contenter du marketing, de fausses solutions, d'incantations, et qu'il y a une obligation de résultat sur cette question-là.
Axel Lacan, comment est-ce que vous vous inscrivez dans ce débat sur l'impératif d'aboutir au plein emploi ?
Oui, c'est vrai que c'est un enjeu qui est fondamental, que ce soit au niveau politique, social. Après, savoir si les mesures qui ont été annoncées vont permettre d'y arriver, c'est vrai que je suis très réservée. Alors, on a fait une estimation, nous, d'impact de la prime forfaitaire de 500 euros par trimestre, telle qu'elle est définie. On arrive à 50 000 créations de postes en 2016. Donc, ce sera pas neutre à court terme. On verra un impact. Maintenant, compte tenu de la durée qui a été décidée pour cette mesure, on sait qu'on aura de toute manière un effet de contre-coup dès 2017. C'est pas une mesure qui est structurelle. C'est pas une mesure qui va permettre de limiter à plus long terme le chômage en France.
Est-ce que vous pensez, Axel Lacan, qu'on peut arriver à créer des emplois sans croissance ?
Non, ça me semble en effet très compliqué. Je crois qu'il faut justement remettre le débat au niveau de la croissance. On peut, comme le disait Monsieur Coriat en début de démission, on peut réussir à changer les statistiques à court terme du chômage, ça c'est certain. Mais maintenant, si on veut vraiment faire évoluer le marché du travail français, il faut s'interroger sur la croissance. Et là, je crois qu'il y a en effet énormément de solutions à mettre en place pour rehausser. Faciliter la prise de risque des chefs d'entreprise, leur donner suffisamment confiance pour lancer des programmes d'investissement, revoir par exemple la fiscalité du capital, inciter les chefs d'entreprise dans leurs décisions d'emploi ou d'investissement.
C'est-à-dire c'est un monde plus libéral avec moins d'État ?
Pas forcément, mais un monde qui remet l'entreprise au cœur de l'économie. Je crois qu'aujourd'hui, si on regarde les chiffres, on voit en 2015 qu'on n'a pas vraiment eu un problème de demande. On a eu de la consommation des ménages, on a eu des exportations qui ont profité de l'effet favorable de la baisse de l'euro sur la compétitivité prix des produits exportés. Donc en termes de demande, le problème n'a pas été situé sur ça. Ça me semble beaucoup plus compliqué du côté de l'offre, donc il faut recréer les conditions pour soutenir l'offre.
Alors Xavier Timbaud, la croissance est encore trop faible pour faire repartir l'emploi, a dit le président de la République, on l'a entendu tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres manières, je repose la question, de créer de l'emploi que de passer par la croissance? Est-ce que les mesures de primes, de subventions à l'emploi sont efficaces?
Alors, les primes, les subventions à l'emploi, et d'ailleurs, Monsieur Gattaz dit des choses qui sont difficilement acceptables, parce que il dit nous avons le SMIC le plus élevé, donc il nous faut plus que des primes, etc. Mais il y a déjà plein de choses. On a effectivement en France un des SMIC les plus élevés d'Europe, mais on a aussi un dispositif d'allègement de charges qui est le plus élevé d'Europe et qui correspond à la contrepartie de ce SMIC. Alors, quelle est la logique qu'il y a derrière? Ben, on abaisse le coût du travail en espérant être de cette façon-là plus compétitif. Comme le revenu des salariés, du coup, subit cette baisse du coût du travail, on compense cette baisse du coût du travail, soit par des compléments de revenus, soit par ce dispositif français qui est un peu plus compliqué, dans lequel on dit le SMIC est élevé, mais le coût du travail est abaissé par les allègements de charges. Ça revient à répondre à cette injonction de compétitivité, d'un côté, tout en essayant de préserver le pouvoir d'achat des salariés. Mais ça se fait avec quand même une difficulté, qui est qu'il faut opérer une redistribution massive. Les 40 milliards d'allègements de charges doivent être financés par quelque chose, que ce soit de l'impôt ou des charges sur des salaires plus élevés. Toute cette énergie qu'on met dans la redistribution pour l'emploi, on ne la met pas dans la redistribution entre les riches et les pauvres, on ne la met pas dans l'école, on ne la met pas dans le traitement de l'exclusion. Donc en quelque sorte, on paralyse notre système de redistribution sur cette question du travail. Est-ce que donc du coup c'est par là qu'on doit compenser pas assez de croissance? Ben, c'est une voie, mais c'est une voie qu'on voit qui est difficile et qui est coûteuse. Quelles sont les autres voies? C'est là où les choses deviennent assez complexes. Alors dans les autres voies, on a évidemment le partage du travail,
la réduction du temps de travail, hein, 32 heures.
Il faut bien comprendre la logique qu'il y a derrière la réduction du temps de travail. Quand on baisse le coût du travail, d'une certaine façon, ce qu'on fait, c'est qu'on favorise l'emploi des peu qualifiés et on le fait payer par ceux qui payent de l'impôt ou ceux qui ont des emplois qualifiés, qui vont payer des taux de charge plus élevés. Donc on fait pas du partage du travail, mais on fait un partage du revenu. Et ça ne choque personne. Alors par contre, quand on dit on va faire du partage du travail, on trouve ça très choquant. Une des grandes réussites du partage du travail, par exemple, en France, c'est d'avoir diminué le temps partiel. Mais quelle est la conséquence du temps partiel? Ben, la conséquence du temps partiel, enfin de la diminution du temps partiel, c'est qu'il y a plus de femmes qui travaillent à temps plein en France que dans n'importe quel autre pays européen. Alors, est-ce que ça, en termes d'égalité entre les salariés, c'est un petit résultat ou pas? Non, c'est pas un petit résultat. Je veux dire, beaucoup de gens sont là de façon très incantatoire aussi en disant « les femmes sont moins payées que les hommes ». Mais concrètement, quand on veut savoir comment on fait pour que les femmes soient autant payées que les hommes, ben on s'aperçoit qu'une des variables essentielles, c'est le temps partiel. Et qu'est-ce qu'il y a derrière le temps partiel pour que les femmes puissent effectivement, parce que c'est ça la réalité des choses, puissent à la fois travailler à temps plein et avoir leur deuxième journée de travail domestique? Ben, une des façons de le faire, c'est le partage du temps de travail avec des temps pleins qui sont un peu plus courts. Donc, c'est pas des choses qu'on peut balayer d'un revers de main. Voilà. Dernier point, on peut faire de la croissance, en tout cas de la croissance de l'activité. On a face à nous un chantier, un enjeu majeur sur la transition environnementale qui demande de faire un investissement considérable, qui va nous coûter, on va moins consommer. Mais par contre, il faut qu'on consomme de façon plus propre. Notre énergie va coûter plus cher, nos transports vont coûter plus cher, les produits qu'on fabrique vont coûter plus cher, on va en consommer moins, mais de façon plus propre. Et ça, c'est un moyen de rétablir un haut niveau d'activité dans un environnement contraint et effectivement de pouvoir proposer un emploi à beaucoup.
C'est Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI. Nous parlons de la situation économique française et du chômage en particulier avec trois invités. Axel Lacan de l'Institut économique Coirex et Code, Benjamin Coriat, membre du collectif des économistes atterrés, et Xavier Timbaud de l'Observatoire français des conjonctures économiques. On parle de start-up, de jeunes pousses souvent pour dire les points positifs de l'économie française. Ces jeunes pousses, il y en a a beaucoup en France, j'ai rencontré Romain David, qui a fondé l'une d'entre elles. L'entreprise s'appelle Y-Assembly. Romain David.
Alors, Y-Assembly est une solution collaborative dédiée aux réunions d'entreprise. Donc, c'est un logiciel hébergé sur Internet qui permet aux entreprises de préparer, d'animer et d'assurer le suivi de différents formats de réunions, depuis la formation jusqu'au séminaire avec plusieurs centaines de personnes.
C'est ce qu'on appelle une start-up ?
Oui, alors la structure est effectivement une start-up. On a été créé il y a un peu plus de 5 ans maintenant et on est toujours en forte croissance et toujours en évolution sur notre business model et notre produit. Donc oui, on est encore une start-up.
Vous êtes combien et est-ce que votre chiffre d'affaires reflète ce que vous me dites de votre forte croissance ?
Alors, on est entre 43 ou 44 aujourd'hui et on est sur des croissances de autour de 100% par an du chiffre d'affaires depuis la création quasiment.
Est-ce que vous avez eu des problèmes pour vous développer dans l'écosystème français ? Est-ce que l'écosystème français est compliqué ?
Moi, je trouve pas du tout, parce que au contraire, on a bénéficié depuis le début d'énormément de soutien et d'aide. Je pense au crédit d'impôt recherche qui nous apporte une aide chaque année. On a remporté aussi un concours avec la région Île-de-France qui s'appelle PME, où on a entre 200 et 300 000 euros de subventions sur 3 ans. On a des prêts BPI à disposition. Donc il y a tout un tas d'aides, que ça soit à la création, au moment de la création ou ensuite dans le développement, avec le statut JEI aussi, jeune entreprise innovante, qui permet d'avoir des réductions de charges. Donc je trouve qu'en termes d'aides financières ou de subventions, il y a énormément de dispositifs en France.
Est-ce qu'il est facile de lever des capitaux ? Des investisseurs sont intéressés par ce que vous faites ? Est-ce que ce milieu de l'investissement en France est assez développé et prend des risques ?
Auprès des banques, c'est compliqué, c'est pas du tout leur modèle, ils savent pas faire, ils peuvent pas financer des entreprises qui ont un business model qui est encore, enfin, trop petite ou un business model en construction. Sur les fonds d'investissement ou les business angels, nous, on a levé des fonds en 2014. On a trouvé, enfin, assez facilement, mais Y-Assembly avait déjà plusieurs salariés et pas mal de chiffre d'affaires. Mais effectivement, c'est peut-être là où il pourrait y avoir, notamment sur certains secteurs où c'est plus compliqué de lever des fonds, sur des produits peut-être plus grand public, etc. Nous, on a la chance de vendre à des entreprises, donc d'être une start-up B2B, comme on dit. Donc on fait du chiffre d'affaires, on peut recruter sur notre chiffre d'affaires, donc c'est peut-être plus facile pour nous de lever des fonds que pour d'autres startups qui font des produits grand public ou gratuits.
Quand François Hollande annonce des aides à l'embauche d'apprentis, des aides à l'embauche de jeunes chômeurs, on s'est dit, quand il promet des primes aux entreprises, est-ce que ça vous parle, est-ce que ça vous concerne ?
Oui, parce que dès qu'il y a des aides qui nous permettent d'embaucher plus vite ou plus tôt que prévu, parce que du coup on a plus de trésorerie disponible, ça nous intéresse.
Inversement, on dit qu'il est trop compliqué de se séparer d'un salarié, que ça complique le recrutement.
Nous, non. Dans notre cas, ça ne nous dissuade pas d'embaucher. En revanche, on sait que, enfin, plus maintenant, mais on savait encore une fois au début que quand on embauchait quelqu'un sur un poste, ça se trouve au bout de 3-4 mois, il ferait autre chose. Notre principal objectif à chaque fois quand on embauche, quand on fait avancer l'entreprise, c'est développer l'activité et développer l'entreprise. Donc, on est obligé de passer par des embauches de toute façon.
Alors, c'était Romain David. Son entreprise s'appelle Y-Assembly. 100% de croissance par an. Pas de problème pour recruter ni pour adapter l'employé à l'emploi. Xavier Timbaud, ça vous semble porteur d'avenir de croissance, ce genre d'entreprise en France ? Est-ce qu'elle est symptomatique d'une nouvelle économie française ?
Oui, je pense qu'il ne faut pas bouder son plaisir. Enfin, ce garçon est tout à fait sympathique. Et ce qu'il dit est très intéressant et, je pense, très juste. C'est-à-dire qu'on ne doit pas considérer aujourd'hui que la France est un pays qui est éloigné à la fois de la réalité de l'entreprise et des nécessités de la prise de risque et de la nécessité d'innover. Et au contraire, la France est en train aujourd'hui de se poser comme un des modèles en la matière, avec à la fois un environnement favorable aux entreprises sur le plan réglementaire, de la législation, avec des souplesses qui sont présentes et qui sont réelles, et qu'il faut pas nier. Et puis de l'autre côté, un environnement qui est aussi favorable en matière d'institutions capables d'accompagner, de subventionner. Il y a un point qu'il a pas évoqué, mais qui est aussi un système éducatif de très haut niveau, qui fournit des ingénieurs
dont il est lui-même le produit.
Dont il est le produit et dont probablement dans ses 44 collègues il y a aussi beaucoup de produits. Je pense que le point principal qui manque aujourd'hui, mais là il y a une once d'espoir pour le futur, c'est effectivement une culture du financement par des business angels. Ce qu'on voit aujourd'hui qui marche très très bien aux États-Unis, c'est qu'en fait beaucoup de ces business angels sont des anciens entrepreneurs qui ont réussi. Et donc on peut espérer que cette génération aujourd'hui qui émerge sera demain celle qui financera les nouvelles générations d'entrepreneurs, à la fois parce qu'elle en aura l'esprit, l'expérience, et aussi les moyens, parce que les entrepreneurs qui réussissent, ensuite, sont souvent ceux qui ont envie d'utiliser les fonds qu'ils ont accumulés pour pouvoir les réinvestir dans des jeunes pousses. Donc, oui, je pense que là-dessus, il faut vraiment pas sombrer dans un espèce de pessimisme. Vous avez mis le mot déclin dans le titre de l'émission. Cette interview est la brillante démonstration que ce n'est pas une histoire de déclin.
C'est pas une histoire de déclin, Axel Lacan. C'est cette croissance de cette entreprise, est-ce qu'elle est le symptôme d'une nouvelle économie française ?
Alors, ce que je trouve très intéressant dans cet extrait, c'est de voir que certaines solutions mises en œuvre fonctionnent. C'est un peu ce qui est rassurant. C'est vrai qu'on a parfois l'impression qu'on fait beaucoup de choses et puis que les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. Là, par exemple, la création de la BPI, de BPI France, a été...
Banque publique d'investissement.
Exactement, était quelque chose de vraiment très favorable. Et on voit que ça permet de pallier les faiblesses que peuvent avoir les banques pour accompagner le début d'une histoire, le début d'une entreprise, parce que le risque est trop important. Donc c'est déjà ce que je trouve très positif dans cet extrait, c'est de voir que certaines solutions fonctionnent, qu'on peut en effet, qu'on a des leviers pour soutenir la croissance. Alors ensuite, oui, ça c'est une très belle histoire et une très belle entreprise. Maintenant, voilà, n'oublions pas qu'il y a d'autres entreprises, des petites entités qui ont souffert de la crise. Là, on a un bel exemple de réussite, tant mieux, mais n'oublions pas également toutes les entreprises qui continuent à souffrir.
Benjamin Coriat, c'est la nette économie, l'avenir de l'économie française ?
Oui, non.
Pour la croissance ?
Deux remarques. D'abord, comme tout le monde ici, je me réjouis de ce succès. Il y en a d'autres, hein, le thème de la French Tech, etc., qui est en train de prendre, et qui montre bien qu'il n'y a pas qu'un seul modèle pour faire des start-up. Voilà, c'est ça qui est très important, parce que pendant très longtemps, on nous a expliqué, en France, il n'y a pas de business angels, il n'y a pas de capital risque, etc., donc on n'y arrivera jamais. La Commission européenne passait son temps à expliquer que l'Europe était un pays de clochards, parce que les entreprises sont les mêmes depuis 100 ans, alors qu'aux États-Unis, c'est que des entreprises nouvelles. Bon, ici, ça montre qu'il y a des atouts français. Alors, les atouts français, ça a été dit, c'est des écoles d'ingénieurs d'un niveau... très élevé, c'est une expertise en mathématiques, c'est une série d'institutions de type caisse des dépôts, etc., des statuts d'entreprise, gènes d'entreprise sont capables. Bon, voilà. Donc, je m'en réjouis. Ceci dit, il faut pas rêver. C'est-à-dire, c'est très bien qu'on ait ça, et il faut pousser, hein, il y a aucun doute là-dessus. Maintenant, le gros de l'emploi, dans les 10-15 années qui viennent, il va pas venir de là. Peut-être dans 20 ans, dans 25 ans, peut-être. Ces petites entreprises deviendront des triomphes. Bon. Donc,
le gros de l'emploi, il viendra d'où?
Le gros de l'emploi, il viendra de la transition écologique. Je voulais rebondir sur l'intervention qui avait été faite tout à l'heure et sur cette histoire de comment les entreprises peuvent créer de l'emploi. Alors, elles peuvent créer de l'emploi de deux manières. Vous avez raison de dire qu'il faut qu'elles aient une incitation à créer de l'emploi, qu'il faut créer des conditions favorables, etc.
Axel Lacan.
Oui, tout à fait. Mais je voudrais dire aussi que lorsque les entreprises n'investissent pas, alors que de toute évidence, il y a des marchés immenses devant soi, il faut le faire à sa place. Et il faut créer les marchés. L'État n'est pas là seulement pour réguler les marchés, il est dans un certain nombre de cas nécessaire pour les créer. Voilà. Et je voudrais insister sur ce point. Ça veut dire que on voit bien, par exemple, sur la question de la crise écologique. Qu'est-ce qu'a été capable de faire le secteur privé? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait les gaz de schiste. C'est-à-dire que il a accru les difficultés et les problèmes en créant d'une part la surabondance et d'autre part les explosions de réserves en Californie. Il y a tout autre chose à faire. Et ce qu'il y a à faire, c'est l'isolation des appartements. Il y a notamment dans les appartements les plus pauvres qui sont...
Mais vous ferez croire à personne qu'en isolant les appartements, on va résoudre la crise du chômage en France.
Ah, j'espère faire croire aux gens que en relançant la politique de l'investissement, qu'en relançant des appartements, qu'en relançant l'isolation thermique et phonique, qu'en relançant les économies d'énergie, qu'en relançant et en appuyant la création de filières de production d'énergie alternative, oui, on va créer énormément d'emplois, bien sûr. sûr, il y a un scénario, en l'occurrence Négawatt, qui montre tout ce qui est possible de ce côté-là. Alors, ce que je voulais dire, c'est ça. Si les entreprises privées ne le font pas, ou ne le font pas encore parce qu'elles n'y croient pas, ou parce que les conditions sont pas réunies, eh ben il faut que l'État initie et crée ses premiers marchés. Ça, j'y crois dur comme fer.
Axel Lacan, vous y croyez aussi, vous, que l'aventure écologique peut résorber le chômage en France ?
Alors oui, je pense qu'il y aura en effet de belles opportunités pour relancer l'activité. Après, il y en a d'autres. Hein. On peut aussi aller chercher la croissance là où elle est, dans d'autres pays. C'est vrai que si on regarde nos exportations, on a gagné des parts de marché en 2015. Maintenant, on n'en a pas gagné davantage que les autres pays.
Dans quel secteur on a gagné ?
On en a gagné dans... Alors, il me semble qu'on en a perdu dans l'alimentaire, dans les produits pharmaceutiques. On en a gagné dans les produits manufacturés, notamment. Ce qui est important, c'est au niveau global. On en a gagné des parts de marché, mais on n'en a pas gagné davantage que les autres pays de la zone euro. Ce qui montre bien qu'en fait, on a profité de l'effet euro, mais on n'en a pas profité davantage que nos voisins européens. Parallèlement à cela, on a une fuite à l'importation qui s'accentue. Donc au niveau de notre commerce extérieur, c'est quand même très compliqué. Donc là, il faut également permettre aux entreprises de se situer sur d'autres marchés, d'aller chercher la croissance sur les marchés où il y a de la croissance, notamment par exemple en Inde et dans d'autres pays où il y a encore de la croissance.
Eh bien, c'est le mot de la fin. Merci à vous trois, Axel Lacan, Benjamin Coriat et Xavier Thimbault d'avoir participé à cet écho d'ici, écho d'ailleurs, qui était réalisé par Guillaume Munier. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.